This is Radio Free Europe.
9 minutos en Colombia.
محليا راديو روزانا في باريس.
مادونا راديو جلوبال.
From CNN Radio 7.
راديو داشا.
O Brasil quer se filmar.
Turquia, foto agora.
Slava, Россия.
Et je vous resalue, bonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui au rythme alangui des mille et une nuits avec Éric Valmire. La question des déchets, ce fléau mondial, Dominique André nous en parlera. L'Écosse, le camp du oui ausculté par Franck Mathevon. Mais tout de suite la Méditerranée, notre mer, leur tombeau.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Le bilan de la semaine est incertain, 600 à 800 morts en Méditerranée, plus de 500 d'entre eux, hommes, femmes, enfants, des familles entières sont morts dans le naufrage de leur bateau au large de Malte, bateau délibérément coulé par les passeurs, selon le témoignage des rares survivants. Voici les mots d'Ahmed, un Palestinien fuyant Gaza. Il était à bord de ce bateau parti du Caire. Il raconte le cauchemar au quotidien italien La Repubblica, cité ce matin par le quotidien français Libération. Les passeurs nous regardaient couler comme au cinéma. On disparaissait les uns après les autres, engloutis par la mer. La plupart d'entre nous ne savaient pas nager. À 7 ou 8, nous nous sommes accrochés à une bouée de sauvetage, mais après plusieurs heures, nous n'étions plus que deux, moi et un autre Palestinien qui a aussi disparu. D'autres ont réussi à s'agripper à des petits morceaux de bois, mais le courant les a déportés. Bonsoir Ernest Ourtasoun. Bonsoir.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, je vous entends parfaitement bien. Vous êtes eurodéputé espagnol, membre du groupe écologiste en duplex depuis le Parlement européen de Strasbourg. C'est sans doute la pire des tragédies survenues en Méditerranée. Quel est votre sentiment et surtout, que peut l'Europe ?
Quand j'ai appris la nouvelle ce matin, j'ai été en choc comme la plupart de mes collègues. Et la question qui revient tout de suite, c'est jusqu'à quand ? Parce que bien sûr, 500, 600, 800 morts cette fois, c'est calamiteux. Mais ça fait déjà des années qu'il y a des gens aujourd'hui qui coulent en Méditerranée et qui perdent leur vie en essayant de trouver une vie meilleure. Et la question que l'Europe doit se poser, est-ce qu'on est en train de faire assez et est-ce qu'on a les bonnes politiques pour éviter cette situation ?
Réponse non, moi, visiblement. Réponse non.
Et réponse non, parce que, d'un point de vue de ce qui est humanitaire, la seule chose que nous avons fait, c'est l'opération Mare Nostrum, qui est une opération, même si militaire, qui est OK, mais qui, bien sûr, n'a pas les ressources nécessaires pour affronter le problème. Et puis après, la plupart des ressources sont allées sur Frontex, qui est surtout une opération pour empêcher ces émigrés d'arriver dans les côtes européennes, non pas d'éviter qu'il y ait des catastrophes humanitaires comme celle-ci. Alors, toute la politique qui a été développée dans les dernières années, Frontex, il faut tout changer. Et évidemment, sur la question du coulage de ce bateau, nous, on pense qu'il faut une enquête. Il faut une enquête. C'est pas possible qu'il y ait 600, 700, 800 morts des êtres humains en train d'essayer d'arriver en Europe et qu'il n'y ait pas une enquête qui soit faite. C'est inimaginable.
On parle de 2500 migrants secourus simplement ce week-end. Donc, eux ont été secourus. Hein. Mais ce sont des chiffres absolument invraisemblables.
Invraisemblable. Et évidemment, il y a plusieurs facteurs qui se mêlent, mais il y en a un d'entre eux que je veux mentionner, c'est la crise des réfugiés syriens et libyens, qui est bien sûr à la source de plusieurs de ces mouvements migratoires, et que l'Europe est incapable de traiter correctement. Nous n'avons pas, en tant qu'Européens, une politique d'accueil de réfugiés syriens en ce moment. Écoutez, la Syrie en ce moment a subi une crise humanitaire. C'est la crise de réfugiés la plus grande de l'histoire. 3 millions de réfugiés. Nous n'avons pas de politique. Alors, ces réfugiés, quelques-uns d'entre eux, tentent de rentrer en Europe. Ils tombent dans les mains des mafias. Et puis, finalement, il y a ce genre d'épisodes qui se tiennent. Moi, je pense qu'il faut tout de suite régler ce problème. Il nous faut une véritable politique d'asile, point numéro un. Et point numéro deux, il nous faut développer plus d'instruments style Mare Nostrum pour éviter ces catastrophes.
Alors, on va y venir en détail. mais la géographie étant ce qu'elle est, c'est l'Italie qui est en première ligne, qui est la plus proche pour les candidats à l'exil. On se souvient du précédent drame de Lampedusa, l'horreur, l'émotion qu'il avait suscité. Bonsoir Anaïs Feuga.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes la correspondante de Radio France en Italie. Est-ce qu'il y a eu chez vous la même réaction d'effroi et de stupeur après ce nouveau drame ?
Bah effectivement, après les témoignages dont vous avez parlé, hein, les gens sont évidemment choqués, mais il est difficile d'avoir plus d'informations sur ce drame en particulier. Vous savez que ce naufrage a eu lieu dans les eaux internationales, près de Malte. Le bateau était parti d'Égypte. Des navires, les marines maltaises et grecques ont géré le secours. Bref, c'est un peu difficile. Et puis, par ailleurs, les Italiens sont malheureusement confrontés quotidiennement à ces images de bateaux qui débarquent des centaines de migrants sauvés en pleine mer. Je vais revenir un peu sur ce que vous disiez. Il y a moins d'une heure, on a appris que le navire Orion de la marine est en train de se courir un bateau de 150 migrants au large de Lampedusa. Hier, il avait déjà récupéré 91 personnes. Le navire Aliseo arrivera demain à Reggio Calabria pour débarquer 879 migrants. Le bateau Sirio a débarqué 524 migrants hier soir à Catane. Le navire Borsini a secouru hier soir 97 migrants. Je ne vais pas remonter plus tard qu'hier. Hein. C'est juste pour vous donner un aperçu de ce qui se passe tous les jours ici en Italie.
Et est-ce que l'Italie est donc débordée ? Est-ce qu'elle se sent seule ?
Bah, alors c'est vrai que ce qui se passe, effectivement, c'est du jamais vu. Depuis le 1er janvier, en moins de 9 mois, plus de 126 000 personnes ont débarqué sur les côtes italiennes. Le précédent important, c'était en 2011 avec les printemps arabes, où il y avait eu 60 000 débarquements sur l'année. Là, c'est plus du double. Alors l'Italie a organisé les patrouilles de l'opération Mare Nostrum, hein, 920 militaires mobilisés, 5 navires, 2 hélicoptères, 1 avion. Donc pour le sauvetage en mer, on peut dire que l'Italie fait face. En revanche, oui, l'Italie est complètement débordée pour ce qui est de l'accueil des migrants. Je suis allée en Sicile, sur les ports, les migrants sont accueillis par des bénévoles, on s'occupe bien d'eux, la population est admirable dans le premier secours. En revanche, ensuite, c'est la désorganisation totale. Hein. Les réfugiés sont censés être accueillis dans des centres d'accueil, mais ils ne sont pas assez nombreux. J'ai vu des centaines de migrants en attente dans des camps de tentes, des mineurs installés dans des écoles désaffectées. On met les migrants dans des bus, des trains pour les accueillir plus au nord dans le pays, mais nulle part les structures d'accueil existent ou sont correctes. Enfin, le ministère de l'Intérieur italien, à ce point de vue-là, ne fait pas son travail. Donc, les migrants poursuivent souvent leur chemin. Alors, oui, l'Italie se sent seule, elle sauve des vies. Le ministre de l'Intérieur voudrait que l'Europe avec Frontex Plus prenne le relais de Mare Nostrum qui coûte 9 millions d'euros par mois à l'Italie. Mais enfin, pour l'instant, Bruxelles n'y est pas favorable. Et ici, les associations et les politiques dénoncent l'indifférence européenne.
Et dernière question, Anaïs, est-ce que la classe politique gère ce problème, je dirais, de manière collégiale et transpartisane, ou est-ce qu'il y a malgré tout une instrumentalisation politique des questions migratoires ?
Bah, alors, pour répondre rapidement, c'est géré de manière collégiale, puisque vous savez que le gouvernement en Italie, c'est un gouvernement de coalition gauche-droite. L'Italie, en ce moment, s'occupe plutôt de sa situation économique. Donc, le problème humanitaire n'est pas vraiment dans les débats, pour être honnête. Il est de temps en temps agité par Beppe Grillo avec le mouvement 5 étoiles, la Ligue du Nord aussi. Mais globalement, il n'y a pas de vrai débat sur l'accueil. Ce qu'on demande, c'est toujours l'aide de l'Europe. On dit que les frontières maritimes italiennes sont une des frontières de l'Europe. Et puis, les associations essayent de faire passer le message qu'on n'est qu'au début de cet afflux de migrants.
Anaïs Feuga, merci. Vous étiez en direct de Rome. Je rappelle que vous êtes la correspondante permanente de Radio France en Italie. On va poursuivre notre tour d'Europe avant de revenir à Strasbourg, au Parlement européen, puisque le débat sur l'immigration rebondit aussi en Allemagne, où l'on rejoint maintenant Cyril Sauvageau. Bonsoir Cyril.
Bonsoir.
Correspondant donc à Berlin, pourquoi l'immigration, Cyril, revient dans le débat maintenant, et est-ce que ce débat-là est d'ampleur ?
Alors, d'abord, l'Allemagne est devenue ces dernières années la principale terre d'immigration en Europe. On parle de 400 000 nouveaux migrants par an, selon les chiffres de l'OCDE. Beaucoup viennent des anciens pays de l'Est, Pologne, Roumanie, Bulgarie, d'Europe du Sud également. Hein, beaucoup d'Espagnols et de Grecs fuyant la crise, attirés par la bonne santé économique de l'Allemagne. Et ce chiffre, eh bien, il devrait encore grimper en flèche cette année avec ce fait nouveau et spectaculaire qui est l'explosion du nombre de réfugiés venus d'Irak et de Syrie. Les autorités allemandes estiment que le nombre de demandes d'asile pourrait dépasser les 200 000 cette année. Et c'est là qu'est le principal enjeu en ce moment pour l'Allemagne. Comment faire face à cet afflux de réfugiés ? Les grandes villes sont submergées, les centres d'hébergement ne peuvent pas accueillir tout le monde. Dans plusieurs villes, des gymnases, des salles municipales, des églises ont dû être réquisitionnées. À Berlin, la ville est en train d'aménager en ce moment des containers en logement pour accueillir les nouveaux arrivants à partir du mois de novembre. Voilà la situation, d'où ce projet de loi qui doit être examiné cette semaine par le Bundesrat, la chambre haute du Parlement, où seront représentés les Länder. C'est un projet qui vise à restreindre le nombre nombre de visas pour faciliter le renvoi de ceux dont la demande est manifestement injustifiée, pour reprendre les termes du ministre de l'Intérieur.
Et est-ce qu'il y a une opposition politique à ce projet de loi ?
Oui, alors il y a une opposition d'abord des ONG, mais aussi des Verts dans l'opposition. Et ce que critiquent les opposants, c'est cette sorte de tri sélectif que veulent faire les autorités. Il y aurait d'un côté les bons réfugiés, ceux qui ont un besoin urgemment d'un visa, les Syriens notamment, les ressortissants de pays en guerre, et puis de l'autre, ceux pour qui l'urgence serait moins importante. Et cette mesure, elle vise particulièrement les réfugiés des Balkans, venus de Serbie, de Macédoine, de Bosnie-Herzégovine. Ils sont très nombreux en Allemagne. Beaucoup sont des Roms de Serbie. Et pour les associations de défense des droits de l'homme, il n'y a pas de doute, cette nouvelle loi, c'est un moyen détourné de s'en prendre aux Roms.
Une dernière question, Cyril. Est-ce que l'Allemagne a une tradition d'accueil et d'asile plutôt généreuse, ou c'est l'inverse ?
Alors, la question se pose pas tellement en termes de générosité, c'est surtout que l'immigration est devenue un besoin, une nécessité pour l'Allemagne. C'est un pays vieillissant qui a terriblement besoin de main-d'œuvre pour faire tourner son économie, la plus puissante d'Europe. Et donc les Allemands, qui sont très pragmatiques, ont mis en œuvre une politique d'immigration sélective, une immigration qualifiée, qui est bien acceptée par la population. L'Allemagne est aujourd'hui le deuxième pays du monde qui accueille le plus d'immigrés derrière les États-Unis. Le problème, il concerne plutôt les migrants pauvres, démunis, qui sont donc de plus en plus nombreux et qui deviennent un vrai sujet politique en Allemagne. Les plus conservateurs dans le parti d'Angela Merkel, la CDU et son allié bavarois, la CSU, réclame d'ailleurs plus de fermeté. Il voudrait restreindre l'attribution des allocations chômage. Le débat devrait être tranché dans les prochains mois par le gouvernement Merkel.
Cyril Sauvageau en direct de Berlin, merci. On repart maintenant à Strasbourg, au Parlement européen. Ernest Urtasun, on a entendu à la fois la voix de l'Italie et la description de ce qui se passe là-bas. On voit aussi que le débat rebondit en Allemagne. On pourrait multiplier les pays au sein de l'Union où cette question des migrations ressurgit dans le débat public. Quelle unification possible à l'échelle européenne pour apporter une réponse un tant soit peu cohérente ?
Alors, si on prend ce qui s'est passé à Lampedusa il y a quelque temps, il y a eu la tragédie de Lampedusa. Alors, il y a eu réunion d'urgence du Conseil des affaires intérieures et de justice. Les ministres de l'Intérieur se réunissent à Bruxelles. Et ils décident que surtout, la politique d'immigration restera une politique des ministères de l'Intérieur de chacun des pays et dans les mains de la police, sans aucune autre approche humanitaire, sans aucune autre approche, sans prendre en compte, par exemple, la politique de coopération et de développement, que dans ce cas est absolument fondamentale. Donc, ils ont décidé tout simplement de continuer avec une approche sécuritaire. Alors, tout ce qui a été fait à l'échelle de l'Union européenne, ça a été pour renforcer cette approche.
Alors, est-ce que cette approche... Vous dites quoi ? Il faut combiner l'approche strictement policière, sécuritaire, avec une approche humanitaire, c'est ça ? Il faudrait que l'Europe marche sur ses deux pieds ?
Absolument. Jusqu'à présent, la seule réponse que les États membres et que et les institutions européennes ont développée, c'est une approche sécuritaire. C'est-à-dire, il faut essayer que ces gens-là n'arrivent pas en Europe. Ça, c'est la préoccupation numéro un. Mais si on est dans une situation où des vies humaines sont en train de se perdre dans notre mer Méditerranée avec des chiffres qui sont épouvantables, il faut bien sûr changer tout ça. Alors, il faut faire une combinaison, bien sûr, d'une politique de sauvetage maritime qui est très importante, parce que les mesures que nous avons prises jusqu'à présent sont tout à fait insuffisantes, combinées avec une politique de coopération au développement et une politique d'asile, de permettre à les personnes qui souffrent de la guerre, de la misère et qui sont censées, par les conventions internationales, de pouvoir demander l'asile, qui est un véritable accueil. Parce que, par exemple, dans mon pays, je peux vous dire, le niveau de réfugiés syriens en Espagne accueillis est égal à zéro en ce moment.
Mais
à
c'est
zéro.
Sans doute parce que le climat politique européen, on l'a vu lors des dernières élections, n'est pas à l'altruisme et à la philanthropie, plutôt au repli sur soi, non ?
Oui, mais bien sûr, si par exemple, si on prend le cas de la France, on est tous prisonniers des discours de Mme Le Pen et du Front National, on ne va jamais y arriver. Et en plus, si on tombe dans l'erreur de penser qu'il faut reprendre les discours et les politiques de Marine Le Pen pour empêcher qu'elle continue à être plus populaire, on se trompe. Parce qu'en faisant son discours, ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie plus de voix, plus de votes, plus de soutien. Alors, ce qu'il faut faire...
Mais sans aller jusque-là, les extrêmes se portent bien en Europe et pas qu'en France.
Non, mais je veux dire, ce qui est important, c'est de l'extrême droite qui est en ce moment, pas seulement en France, par exemple, les démocrates suédois ont eu un score formidable aussi dimanche dernier. Alors, il faut combattre la montée de ces forces, pas en imitant le discours, mais en combattant, en défendant les valeurs fondamentales qui ont construit l'Europe. Et ça, c'est vrai que dans quelques pays, et surtout dans le cas de l'immigration, ça n'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, en plénière à Strasbourg, j'ai entendu un député qui nous a dit que le problème du chômage des jeunes en Europe, c'était la faute des immigrés. On ne peut pas accepter ce genre de discours, franchement.
Le cercle est terrible. On peut le résumer de la manière suivante, et ce sera ma dernière question. On a une situation géopolitique avec des guerres qui mettent les migrants sur la route de l'exil. On a, vous l'avez décrit, des législations de plus en plus dures en Europe qui ont pour effet, non pas de dissuader les candidats à l'exil, mais de rendre encore plus florissant le business des passeurs. Comment on sort de ce cercle-là ?
Je crois qu'il faut sortir de ce cercle. Bon, d'abord, il faut avoir une politique très claire pour poursuivre les passeurs et les mafias, ça c'est clair. Mais il faut se demander pourquoi est-ce que les passeurs et les mafias existent et sont aussi puissantes. Mais parce que les mécanismes d'entrée légale en Europe pour les exilés, pour les réfugiés, mais aussi pour les immigrés économiques, sont très réduits, sont très restreints. Alors, il nous faut une politique d'immigration légale, hein, où une personne qui veut venir en Europe sache qu'il y a une façon de venir qui n'est pas comme conséquence avoir à risquer sa vie en Méditerranée. Parce que si on lui laisse seulement cette option, alors c'est bien sûr les mafias qui prennent tout le bénéfice.
Merci Ernest Urtasun, eurodéputé écologiste espagnol en direct des studios de Radio France à Strasbourg, au Parlement européen. On vous invitera pour parler de la Catalogne un de ces jours dans l'émission, puisque vous en êtes originaire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, l'Écosse, Franck Madvon sur le camp du oui, favorable à l'indépendance. Et tout de suite à 18h33 sur Inter, Nicodémus, Cléopatra in New York. Un jour dans le monde. Merci d'être avec nous. Cléopatra in New York, Nicodémus. Il est 18h35, je vous le disais, chose promise, chose due, l'Écosse.
Je suis très inquiète, j'ai si peur que je compte émigrer en cas de victoire du oui. Je quitterai ce pays, car je sais à quel point nous serons pauvres. Ils pensent tous qu'il y aura du travail. Il n'y en a pas aujourd'hui. Comment pourrait-il y en avoir si on est livré à nous-mêmes ? Et les banques ne nous soutiendront plus si on est endettés. Une victoire du oui, c'est la pire chose qui puisse nous arriver.
Non ! David Cameron fait un peu penser à un homme essayant de retenir sa femme qui le quitte.
We want you to stay.
Mon cœur dit oui, mais ma raison dit non.
Et voilà, au son des clashs, paroles de partisans du non à l'indépendance de l'Écosse. À J-1 avant le référendum, le non aurait d'ailleurs une courte avance, 52-48, d'après les derniers sondages. Alors on va regarder le camp d'en face ce soir et s'intéresser à ceux qui veulent voter oui. Qui sont donc ces Écossais qui veulent quitter le Royaume-Uni ? Bonsoir Franck Madvon.
Bonsoir Nicolas.
Vous êtes en direct d'Édimbourg. Une certitude, d'abord, la campagne du oui est très bien organisée.
Oui, alors cette campagne Yes Scotland compte quelques partis marginaux comme les Verts, mais elle est pilotée par le SNP, le Parti Nationaliste Écossais. Son leader, Alex Salmond, est Premier ministre d'Écosse. Vous le savez, il a transformé ce mouvement en force politique majeure, une machine de guerre électorale.
Vote yes this Thursday.
On entend ici le SNP en campagne. Le parti a obtenu à la surprise générale la majorité absolue aux élections régionales de 2011, d'où le référendum sur l'indépendance de demain. Le SNP s'appuie sur des militants dévoués et des méthodes très efficaces. Exemple, dans ce bureau d'Édimbourg, le député écossais Marco Biaggi attend les volontaires. Il a devant lui une dizaine de cartons remplis de lettres et de prospectus.
Ça, ce sont des lettres ciblées. Certaines sont destinées à des gens qui ont soutenu les travaillistes dans le passé. D'autres sont adressées aux ressortissants de l'Union européenne qui peuvent voter. Et d'autres encore aux électeurs indécis. Elles sont triées par paquets pour être distribuées par les volontaires. Voilà 9 mois qu'on frappe aux portes à Édimbourg. On est allé voir les gens 2 voire 3 fois. Donc on connaît très bien leurs attentes et leurs questions et on essaie d'y répondre le mieux possible.
On l'entend, Marco Biaggi, qui est bien écossais, je vous l'assure, malgré son nom italien, donne les lettres aux volontaires. Lindsay, par exemple, elle est sage-femme, elle a 38 ans et elle n'est pas militante. C'est la première fois qu'elle s'implique dans une campagne. On a donc dans ce camp du oui une machine politique rodée et une forte présence de la société civile, des gens comme Lindsay qui ne s'intéressaient pas jusqu'ici à la politique et qui veulent cette fois être entendus.
Pour moi, c'est très émotionnel. J'ai 2 enfants et je vois un meilleur avenir pour eux dans une Écosse indépendante. Prenons le système de santé, par exemple. La situation est incertaine. D'après moi, tout le monde doit avoir accès aux mêmes soins et ça pourrait changer. On voit bien que c'est en train de changer au sud de la frontière, en Angleterre. Et je ne veux pas que ça arrive en Écosse. Les gens de Westminster ne font pas ce que les Écossais voudraient qu'ils fassent. Moi, je n'ai jamais voté conservateur et je me retrouve avec un gouvernement conservateur. Donc, c'est pour ça que je m'implique. Chaque petit pas peut entraîner un gros changement.
On a un petit problème technique.
Reprends les arguments officiels.
Oui, Franck, on a un petit problème de liaison avec vous. Je pense que vous m'entendez, mais nous, on vous entend de manière absolument catastrophique sur le strict plan de la qualité. Donc, on essaye de voir si on a pu rétablir la liaison. Est-ce que vous m'entendez, Franck, à nouveau ? Et est-ce que vous ne m'entendez ? Ben non, on me fait signe, non. Franck Madvon est perdu. On va faire quoi ? Je ne sais pas. On va passer à Éric Valmire. Voilà, c'est formidable. Il est 18h40. On reste calme et on retombe sur nos pieds après une petite virgule.
Thanks so much for that report.
Et dans Partout ailleurs ce soir, Éric Valmire, Les Mille et Une Nuits, version 2014.
Oui, Dieu sait que ces contes arabes qui étaient portés par la tradition orale au fil des siècles et qui ont été figés par les écrits un peu plus tard, notamment grâce à la magnifique traduction française de Galland au XVIIIe siècle, ont inspiré bon nombre d'auteurs. Et là, Hanan Elsher, figure majeure de la littérature libanaise, vient d'écrire pour le théâtre et pour les besoins d'un livre une réadaptation des Mille et Une Nuits qui revisite le Proche-Orient aujourd'hui avec des contes absolument incroyables. Bon, vous connaissez l'histoire, hein, le roi cruel, raclure de Rennes, n'ayons pas peur du mot, qui la trompe avec des serveurs et des serveuses. Donc il est fou, il les tue tous. Et il décide alors d'épouser des vierges tous les soirs et de les tuer à l'aube. Comme ça, il est sûr de ne pas être trompé. Et jusqu'au jour où il va tomber sur Scheherazade. Et Scheherazade, elle, avant que l'aube ne se lève, après une nuit d'amour, va lui raconter des histoires, et sauver sa peau tous les soirs. 19 contes, autant de situations humaines qu'ils doivent toutes tenir dans le cadre d'une nuit. Je vous en livre deux, très rapides. Un homme et une femme, sa femme est en train de... pas de mourir, mais disons qu'elle est très malade. Elle veut des pommes. Il n'y en a pas dans Bagdad. Il fait tout Bagdad, le malheureux, il ne trouve pas de pommes. Il va jusqu'à Mossoul, 4 jours de marche. Il va finir par trouver un verger luxuriant avec 3 pommes. Il va les ramener au chevet de sa promise, mais elle dort. Il part au marché. 2 heures après au marché, que voit-il ? Un homme qui a une pomme dans la main. Et de cette pomme, d'où elle sort ? Il lui dit que c'est sa maîtresse qui fait semblant d'être malade. Et son mari est parti, cet imbécile, chercher des pommes à Mossoul. Il est revenu et, en guise d'amour, elle lui a donné une pomme. Il tue le malheureux, se précipite chez lui et voit qu'il n'y a plus que 2 pommes sur la table de chevet. Il découpe sa femme en 19 morceaux parce que c'est intolérable. Il les jette dans le fleuve et ensuite, son fils vient voir son père sans savoir que sa mère est morte et lui dit « Père, excuse-moi, mais j'ai volé une pomme au chevet de maman. » Et la morale de cette histoire, c'est que les bourreaux vont souffrir autant que les victimes. Et que les bourreaux d'aujourd'hui, en Irak et en Syrie, ne savent pas qu'ils vont souffrir autant que leurs victimes. Une autre très simple, un voleur d'âne, puisque nous avons un peu de temps, je crois. Un voleur d'âne, 2 voleurs d'âne. Il y a un âne qui est là, les 2 voleurs arrivent, un embarque l'âne, l'autre prend la place de l'âne, met le collet autour du cou. Quand le propriétaire se réveille, il dit « Mais qui es-tu ? Je suis ton âne, mais... j'avais bu et j'avais frappé ma mère et un djinn m'a transformé en âne et aujourd'hui ben, j'ai payé. » Et donc il m'a remis dans la figure d'un homme. Et donc il le libère et le lendemain au marché, l'ex-propriétaire veut aller acheter un autre âne et tombe sur son âne qui est là, revendu par un de ses propriétaires. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, l'ex-propriétaire se précipite sur l'âne et lui dit « Ah non, tu m'as déjà eu une fois ! Tu ne mourras pas 2. Tu as encore frappé ta mère, tu as bu. Eh bien, que tu sois puni pour ce crime. » Et il s'en va. Et là, c'est tout l'obscurantisme, c'est-à-dire que l'on croit évidemment ce qui nous est dit, alors qu'on ne fait pas l'effort de réfléchir. Entretien avec Anan Elcher, de passage à Paris.
Dans les mille et une nuits, il y a la beauté et il y a aussi la violence. Il y a la victime et le bourreau. Je suis désolée de dire qu'actuellement, notre monde vit des périodes très perturbées et très violentes. Chaque jour, je me réveille et je me dis il faudrait que ça change. Il faudrait que les hommes de notre région reviennent un peu à leurs textes originaux, qu'ils les relisent. Peut-être qu'ils sortiraient de leur violence dans laquelle ils baignent continuellement. Maintenant.
Quand il faut relire les textes, les comprendre et non pas croire ce qu'on nous dit, je trouve que la métaphore de l'âne illustre à merveille cette chose-là.
Il nous faudrait des heures pour analyser la situation actuelle dans le monde arabe. Merci d'avoir évoqué la métaphore ou l'histoire de l'âne. C'est un très bon exemple pour dire comment les gens agissent sans réfléchir par eux-mêmes, au point que le propriétaire de l'âne a pensé que son âne est un être humain sans réfléchir et sans bien analyser la situation.
Parlons du rapport entre les hommes et les femmes, parce qu'il en est beaucoup question là aussi. Dans des sociétés dites patriarcales, on va se rendre compte finalement que les femmes ont une grande valeur. Et pour cela, vous introduisez un personnage qui est celui du calife.
Le calife était présent dans Pour me documenter, avant d'écrire mon livre, j'ai lu presque 8000 pages de 3 ou 4 livres différents, des livres de la tradition arabe ou des livres de référence que j'ai trouvés à Oxford, en Angleterre. Et dans les 3 livres, on évoque la présence du personnage du calife. Par ailleurs, dans ma jeunesse, on nous parlait toujours du calife Haroun al-Rachid, qui était le plus important calife des pays arabes, et on nous parlait de son jugement, de sa justice qu'il rendait. Et c'est quelqu'un qui se déguisait la nuit pour descendre dans les rues, pour rencontrer le peuple et avoir un contact avec le peuple et voir comment il vivait, de quoi il avait besoin, etc.
Ça m'évoque un mot subversif, Eric.
Oui, tout à fait. De toute façon, l'auteur est réputé pour ça, cette figure majeure de la littérature libanaise. Mais c'est étourdissant de subtilité, parce qu'à travers des contes qui n'ont rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui, on reçoit tout en pleine figure, si j'ose dire. L'obscurantisme religieux, intellectuel, le monde arabe, ses failles, ses anachronismes,
oui.
Ses dérives, mais aussi ses espoirs. Et cette figure d'humanisme à travers la figure du calife que mentionnait Anna Elcher, c'est aussi la volonté des peuples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr, on n'a plus... Bagdad est décrit avec des formidables jardins, les arts, les lettres, la littérature. C'est plus tellement dans le goût du peuple aujourd'hui, des populations locales. Ils sont plus attirés évidemment par un désir de justice et de justice sociale. Et c'est ce que porte cette figure du calife. Donc c'est, vous savez, les mille et une nuits, ça a été repris X fois, mais alors c'est souvent raté, c'est souvent un carnage. Le seul qui avait réussi, c'était Naguib Mahfouz, prix Nobel égyptien. Et là, on a véritablement une réussite majeure qui fera date. Anan Elcher.
Voilà, redonnez bien la référence du livre.
Anan Elcher, la maison de Scheherazade, c'est chez Actes Sud.
Merci Éric Valmire et bonsoir Dominique André. Dans quelques instants, vous nous parlez de quoi ?
Bonsoir Nicolas, mais ce soir, je vais vous parler de Benoît Pagès et de Cannibal. Sa machine intelligente, les déchets de l'humanité étouffent la planète. 18 milliards de sacs plastiques sont distribués chaque année dans le monde et 10 milliards ne sont pas recyclés. Alors pour éduquer les consommateurs, Benoît Pagès s'installe dans les lieux publics ou dans les entreprises des machines intelligentes qui dévorent les emballages avant de les rejeter et recycler.
Et voilà. Ben on en parle dans quelques minutes avec vous. 18h55, ce sera l'édito d'Arnaud Le Parmentier qui débarque avec une bonne nouvelle. C'est assez rare pour le souligner. Et on retrouvera dans les journaux de la rédaction de France Inter et dans l'émission Franck Madvon pour parler de l'Écosse dès que tout ira bien sur le plan technique. Rodrigo Amarante, Hourglass. 18h48 sur Inter, un jour dans le monde.
Close your eyes, you're bound to look concerned.
Rodrigo Amarante, Hourglass, 18h51.
Nicolas Demorand, Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et c'est la fabrique du Nouveau Monde avec Dominique André. Rebonsoir Dominique.
Rebonsoir Nicolas.
Aujourd'hui, la question des déchets, c'est un fléau mondial. Un Français se retrousse les manches.
Absolument. D'ailleurs, on en parlera bientôt puisqu'il y a le sommet du climat la semaine prochaine à l'ONU. Alors, il s'agit de Benoît Pagès et de sa machine baptisée Cannibale. On sait que les déchets de l'humanité sont une plaie pour la planète. 18 milliards de sacs plastiques sont distribués chaque année dans le monde et 10 milliards ne sont pas recyclés. Dans le Pacifique Nord, on a vu les photos, un nouveau continent de déchets divers atteint aujourd'hui près de 3,5 millions de kilomètres carrés. Ça fait à peu près un tiers de la superficie de l'Europe. Alors effectivement, il y a des éco-citoyens, des entrepreneurs verts qui prennent des initiatives, dont Benoît Pagès qui a installé en France, dans des lieux publics mais aussi dans des entreprises, des machines intelligentes qui dévorent les emballages avant de les rejeter complètement recyclés. Un exemple, quand vous, consommateur, vous jetez votre gobelet de café ou votre canette dans la machine Cannibale, vous avez un cadeau en échange. C'est donc un geste utile, éducatif, aussi un geste de plaisir, car il y a une récompense au bout. Et ça marche, car on aime bien les cadeaux et on est tous de grands enfants. Donc Benoît Pagès a été désigné par l'organisation Chamingo, qui met en avant des initiatives vertes, insolites, intelligentes. Il a été désigné pionnier. Et donc on va écouter ce témoignage et on pourra voir d'ailleurs sa machine bientôt sur les berges de la Seine.
Quand vous avez un gobelet dans la main, enfin un gobelet, une bouteille ou une canette, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, c'est notre problème. C'est notre problème à chacun de nous. Donc nous, on propose une machine qui est hyper ludique, qui fait que quand le consommateur met son déchet dans la machine, ça déclenche un jeu, un vrai jackpot, une loterie, qui d'une part le récompense de façon aléatoire pour son geste, en fait un vrai geste de plaisir, parce qu'on est dans un jeu. Et la machine est super intelligente parce qu'elle reconnaît le déchet, elle le compacte, elle le trie, ce qui nous permet derrière de garantir que tous les déchets qu'on collecte sont recyclés. Et à chaque fois que nous, on traite une tonne de déchets, on économise entre 2 et 3 tonnes de CO2. Donc tout le monde est gagnant. Le consommateur, parce que finalement, il a fait un geste utile pour la planète. Il y a pris un peu de plaisir. Et évidemment, la planète, parce qu'à un moment donné, on a récupéré de la matière première qui peut redevenir du produit. Notre sujet, c'est vraiment d'utiliser ce geste qui est quotidien pour sensibiliser les gens et les accompagner dans un changement de comportement de façon positive.
Vous avez cannibalisé d'autres pays ?
On a installé nos premiers collecteurs en Suisse. On imagine que les États-Unis sont un bon marché pour nous parce que les Américains ont un mode de consommation très nomade. Et évidemment, plus on consomme de façon nomade, plus on a ses déchets dans les mains et plus il faut les mettre quelque part. Avec cette notion d'effectivement dire aux gens, mais pensez bien sûr à jeter le gobelet ou la canette au bon endroit, mais pensez aussi à tout ce que vous pouvez faire tous les jours pour effectivement améliorer vos gestes. L'idée, c'est de dire on peut éduquer les gens sans les contraindre. Et le fait d'adosser un geste utile, un geste plaisir, ça marche. On est tous des grands enfants et au fond, eh ben, on a tous commencé à apprendre comme ça.
Et demain, Dominique, une autre pionnière de nationalité anglaise, cette fois-ci.
Oui, et d'ailleurs, dans Paris pollué en ce moment, Nicolas, on sera bien content d'aller voir justement des inventions comme ça, amusantes, originales. Il y aura cette Anglaise, effectivement, qui fait la chasse au gaspillage de l'énergie. Il y a aussi un Japonais, vous savez, qui recycle les couches culottes. Et puis,
Véritable fléau.
Et donc, des tas de pionniers comme ça, découverts dans le monde entier par cette organisation française, Chamingo.
Dominique André, merci. Les 18h55.
En Afghanistan, en Libye,
le Hamas,
quel est le point le plus chaud
d'État islamique en Syrie.
On file à Tokyo.
Bonsoir Nicolas.
Bref, l'Europe a choisi de déclarer la guerre.
Alors,
aux aspirateurs.
Et l'on termine avec l'édito d'un jour dans le monde. Arnaud Leparmentier, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de la rédaction du Monde, vous venez ce soir, mon Dieu, ce que c'est rare, avec une bonne nouvelle.
Eh bien oui, la Chine, c'est fini.
Ah bon ?
En tout cas, c'est trop cher. Vous n'avez pas vu l'information pendant vos vacances estivales. Le SMIC à Shanghai atteint désormais 220 euros. Donc le travailleur chinois coûte plus cher que le travailleur roumain, serbe ou bulgare. Pauvre bulgare qui ne gagne que 160 euros par mois minimum. Le chinois, lui, va continuer de s'enrichir. Le salaire minimum a augmenté de 14% dans les grandes villes au premier semestre. Et le plan quinquennal, le fameux plan quinquennal toujours en vigueur dans la Chine capitalisto-communiste, prévoit que le minimum salarial progressera de 13% par an entre 2011 et 2015. Donc, l'ouvrier de Shanghai a le même niveau de vie qu'un ouvrier français. Le cadre dirigeant de Shanghai a le même salaire nominal que le cadre français. Mais ça veut dire qu'il vit comme un nabab, que les entreprises se l'arrachent et qu'il change sans cesse de job. Voici le portrait que nous dresse donc de la Chine, l'économiste Patrick Artus, qui conseille la Banque de Chine. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, en 2001, lorsque la Chine entre dans l'OMC, beaucoup prédisent qu'elle sera le trou noir de l'industrie mondiale, comme l'Afghanistan a été le tombeau des empires, qu'elle engloutira la planète, attirant toutes les entreprises du monde grâce à une ressource qui semble infinie et gratuite, sa main-d'œuvre bradée. Toutes les entreprises occidentales délocalisent dans l'empire du milieu, mais la main invisible du marché, chère à Adam Smith, a fonctionné. Le jeu de l'offre et de la demande fait son œuvre, les salaires ne cessent de monter, de telle sorte, Nicolas, qu'il est presque aussi cher aujourd'hui de produire en Chine qu'aux États-Unis. En fait, le marché a mieux fonctionné que tous les protectionnismes et volontarismes. Une étude récente du Boston Consulting Group montre que l'Europe occidentale reste pénalisée, avec ses salaires élevés, son coût de l'énergie prohibitif, écologiste oblige. Produire en Allemagne, en Italie, en France, ça coûte entre 20 et 25% plus cher qu'aux États-Unis et qu'en Chine, qui va désormais rattraper les États-Unis. Il n'empêche, le vent tourne. Et pour exemple, les Airbus produits en Chine sont moins bon marché que ceux qui sortent de l'usine de Toulouse. Donc désormais, si l'on va en Chine, c'est pour produire et vendre local. Sur ce point, les perspectives ne sont pas roses. Les Chinois acceptent les entreprises qui leur apportent de la technologie, pas celles qui conquièrent trop de parts de marché. Les lois anticorruption ces derniers mois ont fait peur aux étrangers. Les secteurs y passent après les uns les autres. On a eu l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique. Désormais, c'est l'automobile et les firmes informatiques qui sont dans le collimateur. Résultat, les étrangers cessent d'investir. Depuis le début de l'année, les investissements étrangers en Chine stagnent. Ils ont décroché de 17% sur un an au mois de juillet, tandis que les milliardaires chinois, eux, fuient leur pays. Cette affaire signifie que l'Eldorado chinois est fini. Cette chronique est de gauche, Nicolas, je dirais même monde bourgeoise. Les industriels européens vont de moins en moins délocaliser.
On la met aux archives directes de l'INA.
Et leurs produits... Et ils vont pouvoir les rapatrier en Occident. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs européens, moins pour les consommateurs qui ne pourront plus apporter leur télévision, smartphone et articles de sport à prix bradé. Mais parfois, il faut choisir.
Merci Arnaud Leparmentier, directeur adjoint de la rédaction du Monde. Le Monde, où nous serons vendredi prochain, vendredi 19 septembre, en direct et en public. Un jour dans le Monde, donc, du côté du 13e arrondissement, chez vous. Arnaud Leparmentier.
Nous assisterons en direct à l'explosion du royaume qui deviendra désuni, ou au contraire, la reine pourra conserver son empire et le prince Charles son kilt.
Eh bien, nous serons fous de joie de vivre ça avec vous. Bonsoir Hélène Jouan.
Bonsoir Nicolas.
Le téléphone sonne dans une vingtaine de minutes. Ce soir, Ebola.
Ebola, une épidémie qui semble aujourd'hui hors de contrôle. Déjà près de 2500 victimes dans les quatre pays touchés de l'Afrique de l'Ouest. Mais cette fois, ça y est, la communauté internationale semble avoir pris la mesure de la catastrophe. Barack Obama a annoncé cette nuit l'envoi de 3000 GIs. Une résolution devrait être adoptée demain au Conseil de sécurité de l'ONU. Et puis, ce qui est particulièrement intéressant dans cette épidémie, c'est que pour la première fois, la dimension anthropologique, c'est-à-dire la compréhension culturelle des modes de vie des populations touchées, semble totalement intégrée à cette lutte désormais mondiale. J'attends vos questions au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux. Twitter, hashtag Telson.
Merci Hélène. Rendez-vous donc à 19h20.